garçon, je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Mon père, es-tu là? Je prends mon cabas. Mon maître, es-tu là? Je prends mon compas. Allons dans le bois. Vas-tu, petit garçon, à la boucherie? Quand reviendras-tu? Jamais. 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 Jamais.
Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et comme chaque premier dimanche du mois, dans l'émission de l'association Ad Hoc, on a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le débat qu'Ad Hoc a mené au Cinéma du Réel le 23 mars dernier. Une émission que nous avons préparée avec Samia Djedaï, Bernadette Mermier, Mélanie Trachler, Paula Vélez et moi-même Anne Galland. Mais le débat mené au Réel était animé par d'autres membres d'Ad Hoc, Manuela Frézil et Renaud Cohen. À eux la parole.
Bonjour, merci d'être là. Cette année, nous avons choisi une problématique assez aiguë d'un point de vue des gestes du cinéma et des gestes politiques, qui est filmer l'adversaire. Enfin, on est parti de l'idée de filmer l'adversaire et donc filmer contre, tout contre, un peu comme si on serrait un hérisson dans la main. C'est très mignon, les hérissons, très sympathiques. Et si on les serre trop, on est plein de puces et on a des pics. On se retrouve piqué. Donc, cette espèce de métaphore un peu loufoque nous permet d'introduire le débat qui est, enfin, la problématique que sur laquelle on s'est basé. Et on va voir ce qu'en pensent les cinéastes ici présents parce que c'est peut-être pas leur avis. C'est de distinguer un adversaire d'un ennemi. Un adversaire, c'est quelqu'un à qui on considère qu'on peut avoir du commun ensemble et que l'on considère comme où il peut y avoir un espace commun, même si on n'est pas d'accord. Un ennemi, c'est quelqu'un qui préfigure la guerre et qui ne nous fait pas de cadeaux et à qui on ne fait pas de cadeaux. Voilà, donc pour essayer d'articuler ces deux idées. La première idée, c'est qu'un adversaire n'est pas un ennemi à questionner. Et la deuxième idée, c'est qu'est-ce qu'on risque? Quel est le risque que le cinéaste prend pour lui-même et aussi pour son film et pour le cinéma? Parce que ça ouvre évidemment un espace au spectateur qui peut être problématique. D'entendre l'adversaire, on n'a pas forcément envie de l'écouter. Avec nous, on a donc cinq cinéastes pour quatre films. Donc, en partant de ma droite, Guy Girard et Carmen Castillo, avec lequel on terminera, avec un film qui date de 1994, qui s'appelle La Flaca Alejandra, qui revient sur les tortures systématiques au Chili. Avi Moghrabi avec son premier film, Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. C'est réellement, on va dire, à partir du titre de ce film que s'est articulé le concept de ce débat. Mehran Tamadon qui s'échine pendant 3 ans à essayer de convaincre des mollahs de bien vouloir partager un espace commun avec lui, il y parvient. Mais bon. Et Laurent Sibien, qui pendant 6 ans, et probablement peut-être plus après, on ne sait pas la suite de ce que la suite du monde lui réserve, filme son pote Édouard Philippe, et qui va devenir Premier ministre de la France et qui est de droite, alors que Laurent est de gauche.
Avis, donc la première question sera pour vous, pour introduire ce débat, et qui, une question qui concerne probablement un peu tous les films qui sont invités aujourd'hui. La question est de savoir si votre intention au départ en faisant ce film était de dénoncer ou de comprendre. Est-ce que vous aviez l'idée de désigner justement votre adversaire ou au contraire d'essayer de partager avec lui une compréhension des choses et du coup du spectateur aussi.
Thank you for having me. Before I answer, I would like to say something. This looks like a normal event. We meet and we are going to talk about cinema and about cinematic presentations.
Bonjour, merci. Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, cette scène ici a l'air d'un événement de discussion normale, d'un temps de conversation normale. On s'apprête à parler de cinéma et de dispositifs cinématographiques.
But nothing is normal. At least between the river and the sea, nothing is normal. And we are in the middle of a massacre, and someone should stop it.
Mais rien n'est normal, puisque entre la mer et le Jourdain, on assiste à un massacre auquel il faut mettre fin.
And I think because the free forces in Israel are so tiny. We cannot expect Israel to stop it by itself. We need the help of you. We need the help of the rest of the world to stop the massacre of the Palestinian people.
Parce que les forces libres en Israël sont toutes petites, on ne peut pas compter sur Israël pour s'arrêter elle-même et on a besoin de vous, on a besoin de l'Europe pour sauver et arrêter le massacre du peuple palestinien.
Et justement, Avi, votre film décrit justement un moment très important, c'est le tournant justement un petit peu, c'est juste après la mort de Rabin, Yitzhak Rabin, et c'est à ce moment-là qu'Israël s'éloigne justement des accords d'Oslo et que Benjamin Netanyahou prend le pouvoir. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais malgré tout, ça nous ramène à la question fondamentale qui est justement filmer l'adversaire, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on veut le dénoncer ou est-ce qu'on veut le comprendre. À l'époque, quelle était votre intention justement?
Well, I didn't go to film Ariel Sharon in order to understand him or to create a respectful relationship with him.
Donc je n'ai pas été filmé Ariel Sharon pour le comprendre ni pour essayer de tisser des liens de respect avec lui.
For many years I considered him as an enemy, almost a personal enemy, and I really thought, like I say in this moment of introduction you screened, I really thought that this was my last opportunity to make a film about him, because at the time it looked like his political career was going to end.
Et donc oui, je le considérais comme un ennemi presque personnel, comme je le dis dans l'extrait qu'on a vu. Je pensais que c'était ma dernière chance de regarder ce personnage dont la carrière politique me semblait être sur la fin.
And it was very clear to me that he is not interested in understanding me either. And that if he knows who I am and what is my ideology, he will not want to communicate with me.
Il me semblait que lui non plus ne cherchait pas à me comprendre, ne voulait pas apprendre à me connaître. Je pensais donc que s'il savait qui j'étais et qu'il connaissait mon idéologie, il ne voudrait pas communiquer.
So I needed to to hide my political identity. I did use my real name. And if his the people who work for him would have made the proper research, they would have discovered who I was politically. But apparently this did not happen, and I gained access to the close environment of Mr. Sharon in a strange way, not really saying who I was or what my aim was.
Et donc il y a quand même une forme de dissimulation de mon identité politique quand je prends contact avec lui. Je n'ai pas caché mon nom. Si ses équipes avaient fait des recherches, ils auraient su un peu plus qui j'étais. Mais donc d'une façon un peu incompréhensible, j'ai eu accès à cette intimité étrange sans avoir le visage complètement découvert, sans que mes intentions soient tout à fait visibles de lui et de son équipe.
Now, something strange happened in this film. Because after filming Mr. Sharon for several months, I realized that I didn't have the film or anything close to what I expected to do or wanted to do. Definitely not some kind of an indictment of what he is or what he did.
Et il se passait quelque chose d'assez étrange, puisqu'au bout de quelques mois de tournage, je me rends compte que malgré tout ce que je filme, je n'ai pas le film que j'espérais ou celui que je veux faire, et rien qui ressemble à une accusation ou à un état des lieux.
Mais pardon, parce que vous espériez qu'en le filmant, simplement le filmant lui, dans ses meetings politiques, dans sa campagne, pourrait apparaître une vérité qui était la vôtre sur lui.
I hoped that in getting as close as possible to him, maybe the monster that lives inside his body would pop up, and I will be able to capture it. If I was close enough.
Oui, j'ai cru que peut-être par proximité comme ça, le monstre qui habitait le corps d'Ariel Sharon peut-être sortirait et que je serais capable de le capturer.
Et c'est le monstre qui vous a attrapé.
And the monster caught you.
Well, the monster captured the filmmaker in the film, not me.
Le monstre a attrapé le réalisateur que l'on voit dans le film, pas moi personnellement.
Et justement, ça m'amène à la question suivante, qui est à quel moment et pour quelle raison y avait-il l'absolue nécessité de vous mettre en scène dans ce film, sachant que c'est le cas pour tous les films qui sont ici, comme si le fait de filmer l'adversaire nous poussait le cinéaste justement aussi à se dévoiler lui-même et à exister physiquement dans le film. Est-ce que c'est apparu au montage ou est-ce que c'était une idée de départ pour vous?
Well, I didn't know it, but this was probably the first decision I made in starting to make this film.
Sans le savoir, je pense que c'est la première décision que j'ai prise de ce film.
The fact that I needed to hide my identity and to play a role in filming already made me a player, an actor inside the film.
Puisque le fait d'avoir besoin de dissimuler ce que je disais, ma personne ou mon identité politique, me donnait déjà un rôle. Je suis devenu un personnage dès le début.
The whole relationship that was created in the film was based on the fact that I know who he is, he doesn't know who I am, and I am making big efforts to not to emerge as a leftist or as a someone who's critical of Mr. Sharon or his politics.
Et donc toute la relation est basée sur ce principe de visibilité. Moi, je sais qui il est, lui ne sait pas qui je suis. Et pendant le film, de tout le long, je fais des efforts pour ne pas paraître comme un gaucho critique de Mr. Sharon et de sa politique.
Unlike other filmmakers, I only saw Laurence and Meran film. Didn't get your film in, with English subtitles. But unlike them, who were engaged in an honest discussion with their adversaries, I was engaged in a totally dishonest encounter with Mr. Sharon.
Et donc, contrairement aux deux cinéastes présents, qui ont une démarche d'ouverture de dialogue sincère avec leur adversaire, moi, c'était une relation tout à fait facétieuse ou insincère.
Du coup, c'est l'attitude d'Ariel Sharon qui a fait naître la nécessité de votre présence dans le film. Une présence qui va très loin, puisque vous mettez même en scène votre femme, qu'on ne voit jamais, un peu comme l'inspecteur Colombo, mais qui est présente tout le temps. Et puis aussi même vos rêves. Donc vous allez très loin dans la subjectivité de votre regard dans ce documentaire sur lui. Oui, donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment en réaction à cet espace que prend Ariel Sharon et que vous ne pouvez pas, disons, atteindre, que vous-même vous appropriez tout cet espace autour de vous, vos rêves, votre femme, etc.
Well, first of all, this was a very psychologically, I was very active during this period. It was a very I was deeply affected because of my fear of him.
Pour commencer, moi, c'était quand même une période de grande activité psychologique. Ça m'a beaucoup marqué. J'étais très affectée par ma peur de ce personnage.
And there was all the time this question of the two voices, the me outside in the world and my inner voice, which later found a representation by the character of the wife.
Et donc se poser comme ça, cette question des deux niveaux de voix, ma voix extérieure, comme on me perçoit et comme on voit dans le film, et ma voix intérieure, à laquelle j'ai donné un corps par le personnage de ma femme.
And also, this film is a failure. It's a big failure. You must, I'm sure you realize that. I didn't succeed in capturing what I was looking to capture.
Et puis ce film est un échec, comme vous le dites, je n'ai pas réussi à capturer ce que je voulais capturer.
And it took me a while to understand that, or it took me a long time to understand that the film was not about Mr. Sharon, it was about filming Mr. Sharon, about the filmmaker.
Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était un film qui finalement ne traitait pas de Sharon, mais du fait de filmer Sharon et du réalisateur.
And then there was a need to tell this story. So this is where the dreams come in, and the wife obviously, and the weak. A filmmaker without a moral backbone.
Et pour raconter cette histoire, donc le dispositif des rêves de la femme et de ce réalisateur un peu lâche, ou en tout cas qui n'a pas une fortitude morale pour résister à ce qu'il voit.
Très bien. Donc justement pour montrer ça, je vous propose de voir un premier extrait ou second de votre film, qui a à voir avec ce regard subjectif et ce point de vue sur Sharon.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet. Nous allons écouter un extrait du film d'Avi Mograbi, Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. Dans cet extrait, le cinéaste est attablé à son bureau, dans son appartement, face caméra, en plan poitrine. Il s'adresse à la fois au spectateur et ensuite il converse au téléphone avec son épouse et il exprime longuement ses doutes sur son projet de film. Il dit qu'il veut approcher le plus possible Ariel Sharon, mais qu'en même temps, il ne veut pas faire partie de ses proches.
Je למקד עכשיו את ה...
כי נראה לי שאתה משחק ממנו, ונראה לי שבנקודות האלה אתה לא רוצה לגעת, אבי, וזו הבעיה.
ואני באמת פחדתי ממנו, זה לא יעזור. לא יכולתי להשתחרר מהתחושה האיומה שאני בסך הכל כלי בשבילו, שהוא יכול לנהל לי את החיים. והטון הכל כך ידידותי שבו הוא דיבר אליי, זה היה הדבר הכי מפחיד.
I must say that looking back at it, you know, it's almost 30 years, I was shocked when I heard him talking to me, me talking to him or him talking to me. It's very strange.
Je dois juste dire que c'est étrange pour moi de voir ce film 30 ans plus tard, parce que c'est un film que je connais par cœur, et de voir et de me rappeler comme c'était étrange, et comme c'est étrange de m'entendre lui parler, de l'entendre me répondre.
Oui, donc dans ce moment-là, on voit bien que l'importance de la mise en abîme de votre film, c'est-à-dire de tous les films qu'on voit aujourd'hui, c'est celui qui, comment dire, décompose le plus la fabrication du film. Mais la dernière question que je voulais vous poser, on l'a vu, la salle s'est mise à rire, donc beaucoup, et donc la question que je voulais vous poser, c'est vous mettez en scène dans ce film, comme les autres, dans une position souvent avec autodérision, disons. Vous êtes le ridicule, il est le fort, il est le puissant. Donc ce que je voulais savoir, c'est en dehors de l'envie peut-être d'en faire une comédie, peut-être par dépit, est-ce que ça n'est pas un peu justement, comme on verra dans les autres films, presque une obligation de se montrer en tant que réalisateur filmant le pouvoir, filmant l'homme de pouvoir, comme quelqu'un de faible, de ridicule ? Est-ce que ça souligne pas justement la puissance de l'autre ? Est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous l'avez fait ?
Well, I'm not sure I can explain it, or maybe it's something for psychologists to do. But I know this characteristic from my personality of insisting to make a fool of myself when possible.
Faudrait peut-être demander à un psychologue. Moi, je sais que c'est une caractéristique de mon caractère, de ma personnalité que je connais, ma tendance à faire l'idiot.
Well, yes, it's true that this puts you in a position that is strange and dangerous. But yes, like you proposed, the fool in the king's court is also highlighting some truth by self humiliation.
Et donc, même s'il y a un danger peut-être à cette position un peu vulnérable, c'est quelque part le rôle du fou du roi que d'utiliser cette autocritique pour faire émerger certaines vérités.
Très bien. Merci beaucoup, Avi, d'avoir parlé de votre film. Et justement, on va rebondir sur le film de vous, sur l'Iranien. Parce que, en fait, justement, cette position, Mehran, que vous avez aussi par rapport au Mollah que vous interrogez, et aussi une position où on vous sent toujours un peu en retrait, toujours un petit peu, là, non pas dans la comédie, mais toujours dans une façon de vous effacer devant eux, devant leurs forces. Mais ce que je vous propose, c'est de voir d'emblée un extrait de votre film, et ensuite on pourra en parler, si vous voulez bien.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire. Nous poursuivons la diffusion du débat d'ad hoc qui a eu lieu pendant le cinéma du réel, avec un extrait du film intitulé « Iranien » de Mehran Tamadon. Dans cet extrait, le cinéaste et les mollahs se tiennent dans un salon, assis sur des tapis, et le cinéaste tente d'établir un dialogue autour de la laïcité avec ces mollahs. Un des mollahs dit « Cette loi du juste milieu que tu appelles laïque, sous la coupe de laquelle tu veux nous réunir, d'où la sors-tu ?» Le cinéaste rétorque « Comment ça, d'où je la sors ?» L'un des mollahs ironise, il se donne le temps de trouver une réponse, c'est ça sa technique.
اگه شما نمیگید جامعه لایک باشه
آزاد آها جامعه لایک این نیست که قانونی وجود نداره که
نه خب میگن
برای عرفی وجود داره تو جامعه
این عرفو چجوری این دو تا رو با هم جمع میکنی احسن ما هم همین
قانونو گذاشته
شما این قانون فیما بینه که اسمشو گذاشتی لایک که میخوای ما رو همه اینا رو زیر چتر خودت جمع کنی، نه کجا در آوردی؟
اینه چه کجا در آوردم؟
قانون از کجا اومده؟
با این تناقض
سوالو میکنه، داره تو سوالش به سوال من داره فکر میکنه، این تکنیکشه. اشهد ان محمد رسول الله.
Pour reprendre la question donc que j'avais soulevée tout à l'heure, pour que tu rebondisses, Behran, donc on te voit à la fois te mettre en scène toi-même dans ce film, bien sûr, et en position aussi, malgré tout, de faiblesse, ne serait-ce que parce que tu es face à quatre religieux, quatre mollahs, enfin je ne sais pas s'ils sont tous mollahs, mais en tout cas quatre personnes qui sont qui te déborde, qui t'assaille, qui te, alors comment, et parfois d'ailleurs ils ont le dernier mot, et même je dirais souvent dans le film tu leur laisses le dernier mot, et donc je voulais savoir, parce que c'est aussi un choix de montage évidemment, sans parler de la mise en scène et du tournage, et donc est-ce que tu as la volonté de montrer leur puissance, de te montrer faible vis-à-vis d'eux, ou est-ce que ça c'est un autre processus?
Pourquoi est-ce que je suis le personnage du film déjà? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai filmé alors qu'il y a autant d'Iraniens qui ne sont pas d'accord avec la République islamique et que ce serait peut-être légitime que ce soit eux qui parlent, pas moi? Sauf que le film est risqué. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de prendre ce risque. Moi, c'est un film que je porte depuis 3 ans. Il m'a fallu du temps pour arriver à assumer ma différence face aux mollahs et aux gens aux miliciens et aux mollahs. Et donc, j'ai même intérêt à assumer, parce que c'est très dangereux de ne pas leur dire qui je suis. On est en Iran, dans une situation, c'est une dictature, et il suffit que je mente et qu'eux, ils sachent, et après, c'est direct, c'est très dangereux, quoi. Donc, moi, j'ai intérêt à être le plus transparent possible dans ma démarche, dire, voilà, donc il faut que j'arrive à leur dire que je ne suis pas d'accord avec eux, que je suis athée, que je suis... je ne partage pas l'idéologie de la République, enfin, l'idéologie qu'eux, ils défendent, quoi. Et c'était quoi la question?
La manière dont tu te mets en scène, en situation ou en position de faiblesse, ne serait-ce déjà que par la disposition dans l'espace, tu es seul face à quatre personnes, quatre religieux, donc quatre voix qui t'assaillent, qui te débordent, et tu as énormément de mal à les contenir, et souvent, dans le film, ils ont le dernier mot. Et donc, je me demandais, est-ce que c'était une volonté aussi de vouloir souligner aussi leur puissance et le fait que toi, t'engager une démarche un peu désespérée, un peu solitaire.
Oui, alors faiblesse. Voilà, donc ce que je dis, c'est que d'abord, je suis seul. Donc l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas le dernier mot, c'est que je suis tout seul. Moi, je fais le film. À partir du moment où je fais le film, j'ai quelque part, je pose un cadre, je les convainc de rentrer dans ce cadre. Donc ça, c'est déjà un pouvoir. Tu vois, le fait même que j'aille m'asseoir dans le champ, derrière eux, et que j'ouvre l'ordinateur pendant qu'eux, ils prient, quelque part, je suis en train de signifier que l'espace de laïcité, dont vous n'êtes pas d'accord, finalement, je le mets en place, malgré vous. C'est-à-dire, si on coupe le son, ce qu'ils disent, et qu'on regarde juste l'image, si on prend juste la photo, ça signifie ça. Quoi. Donc, l'image raconte autre chose. Quelque part, un peu malgré eux, ils ont accepté, moi, je trouve. Ensuite, lorsqu'on est personnage de son propre film, dans un rapport un peu, d'adversité, avec des gens qui défendent... une autre idéologie, c'est très compliqué d'avoir le dernier mot, parce qu'avoir le dernier mot, le spectateur, il sait, il dit, bon, bah, c'est facile, il était au montage, il a coupé comme il voulait, il a gagné, mais quelle était cette réalité? Donc, du coup, il fallait absolument moi, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment où je n'ai pas la réponse face au mot-là, le public fabrique ses propres réponses. Tu vois? Et... bien souvent, le public a presque envie de rentrer dans le champ et parler à ma place en disant « celui-là, il ne sait pas leur dire. Moi, je sais quoi leur dire et je vais leur dire ça. » Tu vois. Et plein de fois, il y a cet effet. Et donc ça, je le fabrique par mes silences. Quoi. Mes silences donnent quelque part la possibilité aux spectateurs d'exister.
Alors, quand tu laisses gagner les mollahs, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'ambiguïté? C'est-à-dire de faire entendre leurs arguments aux spectateurs et de leur donner aussi une tribune. Est-ce que ce n'est pas toute l'ambiguïté dans ces cas-là de ce genre de joute verbale?
Mais tu leur donnes une tribune, mais à partir du moment où ils disent que ce film est une tribune, tu leur donnes plus la tribune, parce qu'ils le disent.
Tu vois, dans le film, il y a un passage où ils disent, bon, bah voilà, donc nous, grâce à vous, nos idées vont être répandues dans le monde entier. À partir du moment où c'est dit de cette façon, c'est plus une tribune. De toute façon, si tu veux faire bouger un peu les lignes, t'es obligé de donner la parole à l'autre. Sinon, je vois pas trop comment est-ce que tu peux faire. Soit t'y crois pas en ça. Moi, j'y crois profondément dans cette possibilité de fabriquer un espace. À chaque fois, je rate, mais je pense que c'est possible, tu vois.
Et donc, tu attends de cette confrontation d'idées qu'une vérité se fasse ce jour et tu espères, comme c'est ton film, que cette vérité, ça soit la tienne. Non, pas spécialement.
Non, moi, dire, il y a plein de moments dans le film, ceux qui l'ont vu, ils savent, je recule, tu vois. Mais si je recule, c'est toujours dans l'espoir que l'autre. Là, je ne parle pas uniquement d'imposition du position du réalisateur, mais de quelque part de citoyen, d'être humain, quoi. Moi, le fait de reculer, j'ai l'impression que le fait de reculer ouvre la possibilité à la personne d'en face de reculer aussi.
Ah bon, non pas de se dévoiler, mais de reculer aussi.
De reculer aussi. D'accord. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un espace commun, il faut que les deux reculent. Si moi j'avance, je veux gagner, je veux absolument avoir le dernier mot, l'autre en face, il va faire la même chose. Il n'y a plus d'espace possible. Tu vois. Et ça, je crois profondément. Ça. Je pense qu'il y a des passages, pour ceux qui l'ont vu, à un moment donné, là, je ne fais pas la prière, mais une deuxième fois, je fais la prière avec eux.
Ce que j'allais dire tout à l'heure, oui, j'ai posé. Mais...
Et donc, le fait que je pense que le fait que je fasse la prière fait que la séquence suivante, ils ont déroulé un papier, ils ont commencé à écrire les articles de loi de la maison, de la maison commune. Quoi. Ok, alors donc, allons-y, jouons le jeu jusqu'au bout. Toi, tu veux ça, nous, on veut ça. C'est quoi les règles à mettre en place, tu vois? Quelles sont les photos qu'on accepte, tout ça. Et ça, c'est devenu possible, je pense, parce qu'à un moment donné, j'ai reculé. Tu vois?
Mais est-ce que justement, alors à ce moment-là, le risque, à l'inverse, c'est si on sent que ces mollahs et ces religieux sont prêts à avancer, sont prêts à trouver un espace commun avec toi, est-ce que ça risque pas de disons, si on généralise au régime iranien, de se dire que finalement, justement, le régime iranien est prêt à des concessions, etc. Et est-ce que ça nourrit pas l'inverse à ce moment-là de ce que tu veux dire?
Que quoi? Vas-y.
Ben, que le régime iranien est prêt à des concessions. Enfin, tu vois, si tu montres des mollahs qui sont prêts à négocier, justement.
Oui.
Bah, est-ce que ça n'a pas l'effet inverse, le risque?
Le risque, c'est de dire que le régime iranien est prêt à négocier, c'est ça?
Oui.
Bah, ce serait bien, non?
Oui, non, mais, ouais. Non, mais la question, c'est... ça serait bien, bien sûr, mais la question est de savoir, est-ce que c'est la vérité que tu... Enfin, est-ce que c'est vrai? Tu vois ce que je veux dire? Ça serait bien, évidemment, mais est-ce que c'est toi ce que tu veux montrer?
Moi, je ne veux rien montrer. Enfin, disons, moi, je fais une expérience, disons, et je le conçois vraiment comme une expérience. J'aurais pu faire un film parce que ça a duré des années avant de les réunir. J'aurais pu faire un film pour dire que ce vivre ensemble que je cherche n'est pas possible. J'ai rencontré 25 mollahs. Il y a des mollahs qui m'ont dit, nous on a des mollahs réformateurs qui m'ont dit, nous on n'a aucun problème pour vivre avec toi. On a un problème pour vivre avec les autres mollahs. Donc du coup on peut pas venir dans ton film. Donc il y a eu cela qui pouvait pas avoir une liberté de parole dans mon film, tu vois. Du coup, je les ai écartés. Après, j'en ai vu plein et qui avaient très peur, qui étaient d'accord avec eux, mais qui avaient très peur et qui pensaient ne pas avoir d'arguments, qui pensaient subir des interrogatoires. J'en ai vu d'autres qui m'ont dénoncé un peu au RG iranien. Et c'est suite à ça que j'ai subi des interrogatoires. Donc, j'aurais pu faire un film pour montrer que ce dialogue est impossible. J'avais toute la matière pour raconter ça. Sauf que ça, je le savais déjà. Avant de démarrer le film. Donc ça ne m'intéressait pas de démontrer quelque chose dont, a priori, tous ceux qui sont dans la salle savent. Quoi. Et moi, je comptais disons, fabriquer cette expérience. Voir dans quelle mesure les lignes peuvent bouger. Et quelque part, c'est ma démarche. C'est ça que je propose avec mes films. Donc,
voilà, comprends. Mais... Donc tu es, c'est avec ingénuité, avec espoir que tu montres le discours. Mais alors... Comme plusieurs de ces films ici, malgré tout, le fait de filmer l'adversaire, ça suscite aussi des polémiques, justement. Et le genre de polémique qui consiste à dire que peut-être le réalisateur s'est un peu fait avoir ou qu'il sert, entre guillemets, la soupe à son adversaire. Quel est le danger, justement,
mais c'est aussi
d'aller
l'inverse.
Au bout de cette démarche? Est-ce que ton film a suscité des polémiques? Est-ce qu'on t'a accusé, par exemple, d'être en accointance ou d'être complice? Oui. On t'a reproché de donner trop la parole ou de leur...
Oui, mais de la même manière qu'à eux, on a fait ce reproche. Les gens de la République islamique, eux, il y en a quelques-uns, ils ont subi des interrogatoires à cause de moi, à cause du film. Tu vois, c'est-à-dire, tout n'est pas dans un sens. De la même manière que moi, je peux être pollué par leurs idées, de la même manière que on peut être quelque part convaincu par ce que eux ils disent, eux aussi ils peuvent être un peu ébranlés, tu vois. Eux aussi ils peuvent se dire, ah finalement les gens qu'on croyait sans éthique, sans morale, sans rien de qu'on puisse partager, finalement ils sont pas si différents que ça de ce qu'on a, de, tu vois, parce que eux aussi ils fabriquent un fantasme sur nous, quoi.
Est-ce que justement les spectateurs iraniens du coup auraient, qui seraient convaincus, enfin qui seraient islamistes, auraient vu le film et auraient pu aller dans le sens que tu dis?
Bah disons, eux c'est une partie des eux ils ont dit, les gens dont, pour qui on, disons, on écrit les lois sont pas comme toi. Toi, apparemment, tu n'as pas besoin de religion pour avoir une éthique. On ne parle pas des gens comme toi. Mais je vous assure que vous ne parlez que des gens comme moi. Ils sont tous comme moi, les gens dont vous parlez, quoi. Ils veulent tous la même chose que moi. Ils ne veulent pas d'autre chose. Et donc, quelque part, moi, je pense qu'il faut tenter... ça, je ne parle pas de la position du réalisateur, mais de citoyen. Je pense qu'il faut tenter de lutter contre les fantasmes. On se fait un fantasme sur l'autre, de la même manière que les autres, ils font ce fantasme sur nous. On ne parle pas des gens qui ont le pouvoir, comme Ariel Sharon. On parle des gens un peu des... Eux, c'est quand même, malgré tout, même s'ils défendent la République, c'est quand même des citoyens, quoi. Donc, il faut lutter contre... On fantasme sur celui qu'on ne voit pas. Donc du coup, il faut se voir. Il faut fabriquer un lien avec celui avec qui on a peur, avec celui qui nous fait peur. On est plus en sécurité si on fabrique un lien avec lui. Déjà, le lien te protège. Moi, le lien me protégeait, quoi. Tu vois, en Iran, quand j'étais en Iran, il fallait que je me rapproche d'eux pour dire, quelque part, si je suis proche d'eux, il va pas me faire mal. Ils vont pas me faire mal, tu vois, si je les filme de près. Si
Donc il y a une forme de peur aussi, tu veux dire?
Ah ouais, j'avais tout le temps peur. Là, ça se voit pas, mais dans notre jardin, il y avait un poulailler, et puis on cachait les roches dans le poulailler la nuit, parce qu'on avait les disques durs. Et oui, j'ai peur, sauf que devant eux, tu vas pas dire j'ai peur. Donc la situation raconte la peur. Comment est-ce qu'elle raconte la peur? On est dans une maison pour parler des espace public. Si on parle de l'espace public à l'intérieur, c'est qu'on peut pas parler de ça dehors, déjà. Donc, le dispositif parle qu'on a peur, quoi. Le fait que je sois seul, c'est que finalement, je suis vraiment seul, tu vois. Enfin, seul devant la caméra, dans la société, il y a des millions.
Donc, ça veut dire qu'au montage, quand tu te retrouves avec tant de paroles et que tu as le pouvoir sur ton film, tu essayes d'être juste, c'est-à-dire de faire exister leurs paroles comme la tienne dans une forme d'équilibre pour éclairer le spectateur, et tu n'es jamais tenté d'aller, disons, dans la direction, parce que tu défends quand même des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les leurs.
Moi, je défends la valeur de l'altérité. C'est cette valeur-là. Moi, je veux exister avec ma différence face à des gens qui défendent la République islamique. Je leur dis, maintenant, j'y vais plus, mais de 2001 environ, de 2000 ou 2001 jusqu'à 2012, je leur disais progressivement, parce que j'étais en lien avec eux, donc j'arrivais à leur dire des choses, que tu ne peux pas dire s'il n'y a pas de lien. C'est dangereux de dire à quelqu'un « je suis athée » si tu n'es pas en lien avec lui, tu vois, en Iran, hein, je sais pas. Et progressivement... J'ai appris à assumer ma différence face à des gens qui défendent la République islamique. Et ensuite de filmer ces scènes qui montrent ma différence. Tu vois. Au départ, je ne voulais pas être filmé. Ce n'était pas du tout prévu que je sois dans mes films. Au départ, je voulais filmer les Basiji, les Mollahs, les gens qui défendent la République islamique. Mais progressivement, comme ils sont très forts et qu'ils crèvent l'écran... Tu vois, vraiment, tu vois, c'est les films auraient pu devenir des films de propagande. Il a fallu à un moment donné prendre la décision de rentrer dans le champ. Mais donc, c'était au moment où je tournais Basiji.
Ah oui, d'accord.
Au moment où je tournais Basiji, à un moment donné, je me suis dit, le film peut t'échapper. Le film peut devenir un film de propagande. Il faut que tu sois à l'écran. Il faut qu'on te voit, il faut qu'on voit que t'as pas de barbe. Ça, c'est avec Dédé d'Aventure, une grande monteuse, vraiment, qui m'a beaucoup appris. Donc je l'ai filmé eux, et il a dit, il faut que tu sois dans le film, sinon ils vont gagner, et puis donc du coup il a fallu être à l'image, voir que je suis pas barbu, que eux ils sont barbus, voir que j'hésite, voir que j'ai peur, voir que je suis fragile, voir que le mec il est comme ça et que moi je suis un peu plus courbé, enfin disons, voir un peu, je jouais pas à ça, tu vois, mais c'est la réalité en fait.
Décrire le rapport de force, quoi.
Montrer un peu, et puis aussi d'un coup lui dire, voilà, je crois pas en Dieu. Et puis rien que le fait de dire ça devant l'écran, dont me protège aussi aux yeux du public. Mais en même temps, le public qui est disons, critique, il va dire, regarde, il est en train de montrer que l'autre est capable d'entendre ça. Tu vois ? Le public, disons, iranien, d'opposants...
Qui a vu le film, du coup ? Le public iranien, est-ce qu'il a pu avoir une diffusion,
le film ? Le public iranien peut voir le film en lien, quoi. Mais les Iraniens, ils s'intéressent pas à ce que je fais, à mes films. Ça les intéresse pas. Moi, j'ai toujours fait des films pour les Iraniens. Les Iraniens, ça les intéresse pas de regarder ce que je fais.
Et donc, peut-être...
Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, ma démarche, c'est pas une démarche qui intéresse les Iraniens. Les Iraniens, ils sont dans la dénonciation d'un régime que je comprends. Parce que c'était mon violent. Moi, j'ai été dehors, je suis rentré, je suis ressorti. Je ne suis pas blessé comme eux, ils sont blessés. Donc, je n'ai pas la même haine. Enfin, j'ai de la haine, mais enfin... Donc, je sais lutter contre ma haine. Tu vois, j'ai peur, il faut que je lutte contre ma peur. J'ai de la haine aussi, parce qu'il se passe au quotidien des choses horribles, et il faut que je lutte contre. Bon, sinon, c'est la guerre. Tu vois.
Nous, en tout cas, ça nous passionne, contrairement au peuple iranien. Quand on voit ton film, on est curieux et on est aussi interpellé par le discours qui est quand même assez développé de ce qu'ils disent, quoi, qui va aussi au-delà des caricatures, mais qui va dans la profondeur. Donc, une dernière question. Aujourd'hui, ce genre de film, c'est-à-dire la confrontation d'idées entre un laïc comme toi et des religieux comme eux, à Téhéran, est-ce que ce sera encore possible? Est-ce que tu pourras encore y aller?
Moi, je pense que tout est possible. Sauf que, bon, moi je pense qu'on peut, mais il faut construire la possibilité de faire des choses. Tu vois, d'emblée, c'est pas possible. C'est-à-dire dire, voilà, le mec il va habiter avec 4 mollahs dans une maison, a priori, c'est pas, les perspectives sont pas très optimistes. Mais il faut construire cette possibilité de faire des choses. Et construire ça, c'est du temps. Tu vois, moi je pense qu'on peut filmer tout le monde, sauf que, il faut être stratège, il faut être, pour moi, il faut être sincère, parce que sinon ça sert à rien, c'est juste de la dénoncer. Enfin, dans ma démarche à moi, quoi, de filmer des gens un peu comme ça. Et donc, aujourd'hui, si je pars en Iran, parce que là, j'ai terminé 2 films qui sont plus directement sur la torture, en me posant la question de ce que le tortionnaire a en tête. Et aussi, est-ce qu'il est possible de l'ébranler, de le toucher, de l'ébranler? Donc ça, c'est la question que soulèvent mes 2 films actuels. Je pense que c'est avec ces films-là, je comptais y aller. Mais si je pars avec ces 2 films-là en Iran pour faire un autre, il y a quand même des chances que je sois arrêté, que j'aille en prison. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Tu vois? Ça veut dire que si j'y vais, je serai arrêté et que j'irai en prison. Donc du coup, la question, elle s'est quand même posée. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la République islamique qui décide si on y va en Iran ou pas. C'est moi qui décide de jusqu'où est-ce que je suis capable de m'engager. Je suis pas capable de m'engager jusque-là pour aller en Iran. C'est ma décision, d'accord? Mais il n'empêche que j'aurais pu y aller. Peut-être que j'aurais risqué pas la prison. J'aurais dû me battre pour sortir de prison. J'aurais dû ensuite me battre pour rencontrer des gens, pour continuer à les filmer. Et ça aurait été possible, tu vois? Je pense. Mais c'est long, tu vois.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Biran. Du coup, Manuela va prendre le relais, mais on va rebondir par un extrait du film de Laurent Sibien, donc, sur justement cette question de la manière de non pas seulement de filmer l'adversaire mais de converser avec lui, d'échanger avec lui et de dans une démarche qui est plutôt une démarche pleine d'espoir quelque part d'échanger et de comprendre. On peut dire ça peut-être.
Oui, enfin espoir. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention ce que disaient Avi et Mehran et je trouve plein d'échos hein, avec des questionnements que j'ai pu avoir dans ce film, avec une très grosse différence, c'est que moi c'est quelqu'un que je connaissais. Enfin, c'est d'abord un pote, Edouard, avant qu'il devienne Premier ministre de Macron. J'ai commencé à le filmer en 2004, donc sauf à être vraiment un grand voyant, je ne pouvais pas imaginer qu'il viendrait Premier ministre 13 ans plus tard.
Laurent, je te propose qu'on voit un extrait, comme ça plaisir. Après tu rebondis sur le film.
Ça tourne, on peut y aller. Le son est bon.
Vous voulez que j'enlève de la musique?
Ouais.
Vous êtes pas drôle.
Bon,
Allez-y, monsieur le journaliste, faites votre joli métier.
Ça commence bien.
Monsieur le Premier ministre, vous êtes de droite.
C'est vrai.
Ah, vous êtes toujours de droite?
Je crois. Hein? J'en sais rien. Non, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et... Si on parlait de Notre-Dame-des-Landes?
Ah, très bien.
Tu t'y attendais pas?
Est-ce que cette histoire d'aéroport, parce que vraiment ça concerne, c'est un enjeu local, je l'ai dit comme tu m'avais dit il y a quelques années, après tout, toi, t'es pas de cette région.
C'est un enjeu régional, ouais.
C'est un enjeu régional. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit, on passe quand même beaucoup d'énergie... Enfin, il y a des sujets qui...
Oui, mais enfin, bon, d'abord, c'est pas parce que c'est... Il y a des sujets régionaux qui sont des sujets importants, et puis accessoirement, c'est un sujet porté par l'État depuis le début, donc je ne peux pas faire comme si ce n'était pas mon sujet.
C'est pas intimement, est-ce que tu dis des fois que tu aimerais consacrer ton énergie sur d'autres trucs?
Ah ben, je préférerais consacrer autant d'énergie sur des sujets qu'on impulse. Si tu veux, parce que là, quoi qu'il arrive, on va gérer un dossier qui a été géré de façon contestable, on va dire, depuis très longtemps. Là, on a laissé le truc comme ça, s'enquister, avec une ZAD qui prolifère et compliquée à évacuer, avec une crispation générale et une portée presque totémique à un projet qui, d'abord et avant tout, un projet d'infrastructure régionale.
Bah oui.
Bah oui, je sais, oui. Mais ça, j'y peux rien. Moi, je récupère le truc, quoi.
Et pourquoi c'est un fait établi qu'il faut évacuer la ZAD?
Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il y a un certain nombre d'occupants sans titre. Alors, si tu considères que la propriété privée, on s'en fout, c'est pas grave, mais si tu considères que la propriété privée... Voilà, il y a une route départementale qui est coupée, interdite au public. Pourquoi? Parce que 50 types ont décidé qu'on passait plus. Pardon, mais c'est fondamentalement inacceptable.
On pourrait se dire aussi qu'après tout, grâce à eux, à ces 50 types et à tous ceux qui les ont soutenus... On peut trouver ça assez courageux d'aller te peler, d'essayer de peler pendant des années, parce que c'est pas marrant, hein, Notre-Dame-des-Landes, c'est de la boue,
mais
c'est,
je dis pas, froid. Que tu peux tout à fait les trouver courageux, sympathiques. Tu peux aussi considérer que ce qu'ils font est illégal et que le rôle du Premier ministre, c'est plus de faire respecter la légalité que d'exprimer ses sympathies. Tu vois?
C'est lui pas d'exprimer.
C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis Premier ministre et que toi tu poses des questions.
C'est ça.
Parce moi, que t'as pas envie d'assumer ce que moi j'assume.
Absolument.
Mais oui, non, mais c'est pas du tout une critique.
Mais absolument.
Toi t'as pas envie d'assumer
mais
ce que moi j'ai assumé.
Mais
et moi, le simple fait de poser des questions me satisfait pas. Je préfère prendre des décisions. Ben voilà, ben, c'est tout, c'est pas grave. Chacun sa vie. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a simplement des jobs différents.
Donc, c'est totémique, idéologique, et vous êtes pote. Lui. Il a le pouvoir, le bras très long, et toi, t'es qu'un pauvre journaliste. Comment ? Alors, je me permets d'être un peu, d'y aller avec un peu les gros sabots, parce que quand même, on est très amis avec Laurent et on milite ensemble pour obtenir. On travaille beaucoup à l'élaboration de quelque chose de plus juste pour le travail des cinéastes. Donc. Justement, est-ce que quand tu t'appuies sur cette sincère amitié qui vous lie, on la conteste pas, mais qu'il te prend quand même de haut toujours, est-ce que tu crois, pour reprendre les mots de Mehran, que tu pourrais faire bouger les lignes ?
La situation est... Il y a du commun avec ce dont parlait Mehran. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un espace commun tout à fait inattendu qui est ce bureau de Matignon, dans lequel je me retrouve à un endroit où je ne devrais pas...
Oui, mais tu joues à l'extérieur, alors que Mehran joue à l'intérieur.
C'est vrai. Oui, je joue sur son territoire, effectivement. Oui. Et est-ce que l'idée, c'est de faire bouger les lignes? Disons que, encore une fois, c'est un processus de très long terme. Hein, j'ai commencé ce travail il y a plus de 20 ans. Et donc, dans l'idée d'une vraie curiosité, c'était « mais c'est quoi un homme politique ?» C'est quoi être de droite? C'était ça le point de départ de ce film. Et j'avais un personnage sous la main que je connaissais depuis l'école et qui... d'une certaine façon, accepter de jouer le jeu. Donc, le commun, c'était qu'il acceptait de jouer le jeu et que c'était un travail commun dès le départ. Donc, il se retrouve à Matignon Et donc on n'est plus du tout dans la question de la conquête du pouvoir, mais dans l'exercice du pouvoir. Mais c'est bel et bien un homme de pouvoir qui a un endroit où il peut prendre des décisions, qui a des influences sur nous tous. Et je me retrouve dans cette discussion avec lui, qui est une discussion qui est commencée depuis très longtemps, pour pouvoir continuer à lui poser les questions qui, moi, m'habitent. Alors cet exemple, cet extrait, pourquoi il m'a semblé intéressant, parce que justement, on est dans une situation où je ne sais pas ce jour-là encore ce qu'il a décidé pour Notre-Dame-des-Landes. C'est quelques jours après où il va dire « j'ai décidé d'annuler l'aéroport ». Moi, évidemment, je suis à fond pour qu'il annule cet aéroport. Et il ne m'a pas dit ce jour-là qu'il allait le faire. Il l'avait déjà décidé, mais ce n'était pas mon objet. Je m'en foutais. De toute façon, le film, il paraîtrait bien longtemps après. Et clairement, c'est effectivement un moment où... Et là, ça fait écho à ce que disait Mehran. Également, c'est, j'accepte de me mettre en scène, y compris en difficulté. C'est-à-dire... Ce que tu disais, tout le monde peut dire « Ah là là, il aurait dû lui poser cette question. » J'ai envie de dire à tout le monde, mettez-vous face à une bête. Il vous plie, c'est son métier. Je veux dire, c'est son métier de plier une conversation. C'est presque le cœur de son travail. Donc c'est pas ça l'enjeu, en fait. C'est pas essayer de le convaincre. C'est pas essayer de faire bouger les lignes. C'est pas essayer de le faire bouger lui. Ça n'a aucun sens. Lui, il est dans sa fonction de Premier ministre. Je ne suis pas là pour le faire changer d'avis. Je suis là pour essayer de faire apparaître éventuellement des contradictions, de faire apparaître aussi éventuellement de la sincérité quand il y en a. Enfin, voilà. Et là, mon rôle de cinéaste, j'ai l'impression, c'est d'être le corps qui permet de faire apparaître ça. D'où l'importance de se mettre... en scène qui n'était pas... Moi, je tourne seul, hein, j'avais pas trop le choix. Alors là, c'est un cas particulier où j'avais... Mais c'est très rare dans le film qu'il y ait une autre caméra qui permet de montrer le dispositif. Mais sinon, en général, je suis toujours seul. Et il y a un miroir derrière lui et on me voit dans le miroir. Ce truc que normalement, on évite à tout prix. Au contraire, moi, je voulais absolument trouver une façon d'être dans le film. Non, ça ne le fait pas bouger d'un iota, mais c'est pas l'objectif du film. C'est pas du tout l'objectif du film. L'objectif du film, c'est d'offrir au spectateur la possibilité de lui se poser les questions de qu'est-ce que je pense de cette situation, qu'est-ce que c'est son métier, comment je comprends ce qu'il fait, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas, je veux pas faire bouger non plus des lignes chez le spectateur. Je veux lui offrir un endroit de discussion possible où on n'a pas accès. Où justement, je rencontre quelqu'un qui est censé être dans une fonction importante et que je décide de filmer comme un être humain. Voilà. Mais ça, c'est le propre du documentaire.
Enfin, oui, bien entendu. Tu le filmes comme un. Enfin, tu t'appuies sur votre camaraderie. Pour en faire quelqu'un d'humain, alors qu'effectivement...
Pas quelqu'un d'humain, il l'est.
Oui, non, mais... non, mais c'est parce que Avi tout à l'heure parlait de monstres, les mots-là, on a un peu du mal quand même cyborg, à penser qu'il puisse être sympathique, alors qu'Edouard, il est sympathique. Enfin, je veux dire, tu n'es pas en danger jamais, alors que...
Ah bah non.
Voilà, alors que c'est
ce qui... Là, c'est pas comparable du tout.
Voilà, c'est là où, effectivement, c'est pas comparable.
Pas encore.
Par rapport au... Il n'y a pas... La violence de l'État, tu peux que te prendre une vanne un peu désagréable, mais pas, effectivement, par rapport au... Mais, en fait, quand tu dis... que la question c'est qu'est-ce que c'est que d'être de droite. Moi c'est comme ça que j'ai vécu le film et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que pour la première fois je comprends la logique de droite. Là par exemple, quand on croit à la propriété privée, on n'est pas très loin de quand on croit en Dieu. C'est pourquoi pas. Enfin je veux dire, ça c'est très totémique. La propriété. Bon, voilà. Il s'avère que. Voilà. Et effectivement, le film révèle ce que c'est que la pensée de droite, auquel on a rarement accès. Mais ma question, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vas te faire bouffer tout cru ? C'est-à-dire jouer contre ton camp.
Écoute, déjà la notion de camp, elle est problématique dans ta question, mais je veux dire, je suis pas le représentant d'un camp face à un représentant d'un autre camp.
C'est lui qui le pose comme ça.
Oui, il le pose comme ça, mais ça ne veut pas dire que moi, je le pose comme ça. Dans le titre, c'est Edouard, mon pote. Il est de droite et c'est mon pote. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme le titre du film d'Ali Mioghrabi. Au moins, le titre ne ment pas sur le contenu du film. Me faire bouffer, si tu veux, c'est un peu l'idée de dire qu'on serait dans un ring et qu'on ferait de la boxe, et donc de la boxe, lui en l'occurrence il en fait, mais
oui, en vrai,
mais c'est un bon exemple, parce que si on se dit qu'on est sur un ring de boxe et qu'on a les mêmes armes, bah forcément face à un mec hyper entraîné tu perds. Lui, entre un champion du monde poids lourd et un gringalet, enfin voilà, il y a aucune chance que ça marche, quoi. Si on se dit que on n'a pas juste les mêmes armes, que peut-être lui il fait de la boxe mais moi je fais, je sais pas, du judo, ça change des choses, tu vois, donc c'est plutôt ça, si tu penses en termes de combat. On n'est pas dans un combat de boxe, je ne sais pas, par la position, moi je suis derrière la caméra, lui il est devant,
vous n'êtes pas à égalité,
on n'est pas à égalité, et ça serait illusoire de penser qu'on est à égalité. Mais c'est intéressant, je trouve, cette situation de filmer un homme de pouvoir, c'est que ça remet en question cette idée qu'on a tous expérimenté dans le documentaire, que quand t'es derrière la caméra, t'as le pouvoir. Là, tout à coup, c'est filmer quelqu'un qui... non, ça, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Mais ça veut pas dire aussi que tu lui donnes tout le pouvoir. Enfin, donc faut trouver d'autres moyens à travers des dispositifs, à travers une fabrication pour au moins essayer de rééquilibrer les choses. Mais à la fin, moi, mon but, c'est pas de sortir vainqueur de ce combat. Je m'en fiche. C'est pas ça. C'est un peu désagréable en termes d'ego de faire des séquences où à la fin, tu passes un peu pour un con et que voilà. Mais si ça produit quelque chose, si ça produit de la compréhension, j'ai pas de mot qui me vient mieux que ça, mais en tout cas une émotion ou quelque chose au spectateur, une réflexion dans cet espace que le spectateur a entre lui dans la scène, dans la salle et l'écran, et même éventuellement à la télévision ça marche, c'est ça qui est important. Moi, on s'en fout quelque part.
C'est-à-dire que tu suis les pas de ce qu'expliquait Mehran, d'une proposition d'un espace commun, sauf que Mehran parlait d'un espace commun entre les Mollahs et lui, avec la violence de l'État en arrière-fond, et toi tu fais un triangle. C'est-à-dire qu'il y a lui, toi et le public. C'était, et les gens qui regardent le film.
Ça, je pense pour tous les films. Enfin, je pense pour Mehran aussi, pour tout le monde. Enfin, heureusement que c'est pas entre nous, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais sur l'espace de l'espace commun, sur la question de l'espace commun, je réfléchis à voix haute, mais là où il y a peut-être un lien, c'est qu'effectivement, je suis face à quelqu'un qui est là, dans le troisième épisode, hein, dans les deux autres, il n'en est pas, c'est pas encore ça, mais dans le troisième épisode, donc, qui est Matignon, il est donc premier ministre. Il est donc, il a un rôle de prise de position, de prise de décision, de pouvoir, dans un palais de la République. Là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus d'espace commun. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est une création. Il y a une création. L'État ne fait que créer en permanence une sorte de mythologie. Enfin, on est dans une forme de monarchie qui se prolonge. Et normalement, la personne qui est à cet endroit-là est justement construite comme étant non-humaine. Il dort jamais. Oui. Il prend 250 000 décisions à la journée. Enfin bon, c'est des sortes de surhommes. On construit on fabrique des surhommes à travers la télévision, ou des surfemmes, mais plus souvent des surhommes. Là où il y a une volonté, je pense, dans le film, de casser ça, c'est-à-dire de montrer finalement. Quand il met ses pieds quand il bouffe des pâtes ou qu'il met ses pieds sur son bureau, on n'est plus trop dans le surhomme, quoi. On est dans un job quelque part. Et moi, je trouve que la dimension politique de mon film, elle est là. Elle est en relativisant cette construction d'un État surpuissant et dominateur qui n'est pas. Il y a une part de comédie quand même dans le pouvoir dans une société libérale, démocratique, ici. Très, très différent, pour le coup, avec l'Iran, évidemment.
Vous avez une règle commune qui a été mise en place il y a 10 ans, en arrière, qui est unique, enfin, qui est toute simple. Quand ils te demandent d'arrêter, t'arrêtes. Et je suppose que tu n'as jamais dérogé à cette règle.
Oui, puis en réalité, il ne m'a jamais demandé d'arrêter, mais...
Enfin, quand il se lève et qu'il dit j'ai autre chose à faire...
C'est comme n'importe quelle personne qui dit, là, j'ai autre chose à faire, on arrête. Voilà, enfin, d'ailleurs, en général, je laisse tourner la caméra, mais il n'y a plus personne. Enfin, voilà, il sort du bureau et puis il passe à autre chose. Enfin, c'est... En fait, cette règle, c'est essentiellement pour dire si quelqu'un ne veut pas être filmé, c'est pas de la caméra cachée, il n'y a pas de caméra cachée dans mes films, donc c'est essentiellement ça, évidemment, que je m'assure de sa participation et de la participation des autres personnes qui est susceptible de croiser. Mais après, il n'a aucun contrôle sur le film. Voilà.
Parce que tout à l'heure, Avi disait qu'il décide de filmer... et j'ai l'impression, tu confirmeras ou pas d'ailleurs, que c'est pas du tout, tu pars pas du tout du même endroit. Avi disait qu'il décide de filmer Ariane Charol pour faire apparaître le monstre qui est dans ce corps. Il me semble que c'est pas ça que tu décides, avec le même dispositif, de filmer la campagne électorale ou l'exercice du pouvoir. Comment tu signifierais ce que vous entreprenez tous les deux?
Effectivement, je ne peux pas essayer de faire apparaître le monstre dans ce corps, parce que je ne le considère pas comme un monstre, oui, à la base.
Oui.
Qui n'empêche pas que je suis en désaccord clair politiquement. Je veux dire. Moi, alors, ce qui est très curieux, c'est que d'une certaine façon, jusqu'à présent, je repense aussi dans le film d'Avi, où il dit « il a pris des décisions qui m'ont affecté dans ma vie ». Jusqu'à Matignon, c'était pas le cas. Je veux dire, quand il était candidat à la mairie du Havre, moi, je suis pas électeur au Havre. J'ai jamais, quand il était ensuite porte-parole de Juppé au primaire de la droite, je vote pas pour la droite. En aucun cas, ce qu'il faisait pouvait m'impliquer, me concerner. On verra ce que l'avenir politique nous réserve, mais je peux me retrouver dans cette position de me dire, est-ce que je vote pour ce mec ou pas? Enfin, je connais déjà la réponse, mais. Et là, évidemment, à Matignon, c'était différent. C'était tout à coup, mais je n'ai pas décidé qu'il y était. C'est pas moi qui l'ai nommé, évidemment. On ne m'a pas demandé de voter pour lui ou pas pour savoir s'il était à Matignon. Donc le rapport est différent d'une certaine façon.
Oui, mais c'est bien toi qui décides de filmer l'exercice du pouvoir.
Ah oui, bien sûr.
Tu aurais très bien pu t'abstenir. Pourquoi ? C'est quoi l'idée ?
Ce qui m'intéressait, mais dès le début de ce projet, c'est de filmer ma génération politique.
D'accord.
C'est-à-dire, Edouard, je l'ai rencontré, on avait 18 ans, classe prépa, tout ça. Et je l'avais perdu de vue, je l'ai retrouvé une dizaine d'années après. Il était devenu apparatchik de l'UMP. Moi, c'était d'abord une curiosité, quoi. C'est quoi un apparatchik? Comment ça marche? Comment marche cet univers-là sur lequel je n'avais aucune connaissance? Et peu à peu, je voyais aussi bien qu'il avait quelque chose d'assez archétypal dans son parcours politique, hein, l'ENA, Conseil d'État, tout ça, qui représentait assez bien ce qu'était ma génération politique, donc y compris avec nos échecs, hein, quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est que vraiment on a dû sacrément merder. Et donc il y avait cette volonté aussi d'un miroir, en fait. C'est-à-dire si on a peut-être la classe politique qu'on mérite à sa génération, quoi. Et je me dis si c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment merdé. Et donc, je l'ai toujours abordé comme ça, quelque part, Edouard. Enfin, dans cette idée-là, c'est quelque chose de réflexif en le filmant, lui, quoi. C'est ce que je projette, en tout cas, aux spectateurs, de se poser la question. Est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui? Ce type de monde politique et donc de société politique dans laquelle on est aujourd'hui.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet. L'émission Radio Ad-Hoc. On vous propose de poursuivre la diffusion de ce débat qui a eu lieu dans le cinéma du réel avec un extrait du film La Flaca Alejandra de Carmen Castillo et Guy Gérard.
Une maison de torture réglée comme une horloge. On comprend qu'on puisse devenir fou. On rentre et le piège se referme. Les prisonniers survivants disent que le temps s'écoule autrement. Le réel change de ligne, saute du trou au plafond, déraille, se renverse. On ne sait plus, on ne peut plus penser comme avant. Entassés, les yeux bandés, dans la saleté et la douleur, les prisonniers sont pris dans un jeu atroce tant ils ne connaissent pas les règles. Ils ne savent qu'une chose, il faut tenir, se taire, résister, le plus longtemps possible. Mais il y a la douleur, et la peur affolante de la douleur, et le temps qui appartient aux tortionnaires. On ne sait pas quand ce sera, on ne sait pas ce qu'ils feront, on ne sait pas combien de temps, et après, il n'y a rien. Ceux qui sont emportés d'ici, où vont-ils? Échapper à la mort ou la trouver dès la porte franchie? On ne sait plus si ce qu'on préserve au prix des souffrances insoutenables a encore un sens. Cette adresse, ce rendez-vous, ils sont peut-être dépassés, il faut qu'ils le soient. On croit que ça cesse, une semaine, un mois. Ça ne cesse pas, ça recommence. C'est eux qui font les règles. Il faut dans le noir s'inventer contre toute vraisemblance une ligne. Pour exister, pour parvenir à rester soi-même, Octavio simule la folie. Diane affirme jusqu'au bout ne rien savoir. Lumi fait semblant de collaborer. D'autres lâchent des bribes d'informations, préservent l'essentiel. Certains réussissent à ne plus voir la douleur. Presque tous sont morts. La flaca Alejandra, Carola et Luz ont trahi. Gladys et Myriam se sont tues. Et elles sont toutes vivantes aujourd'hui. Il n'y a pas de logique dans ce lieu. On peut parler sans trahir. On peut commencer à trahir en ne donnant rien d'important. Mais on est passé de l'autre côté. On est à eux.
La question qui a de particulier dans votre film, c'est que vous êtes deux. Et pourquoi il fallait être deux?
Ce film est ce qu'il est. Je suis filmée par Guy. C'est lui qui a voulu, et on en a vraiment beaucoup parlé, pourquoi je devais être là, à l'écoute. La longue histoire qui me lie à la Flaca Alejandra depuis notre jeunesse de militante je ne pouvais pas faire ce film. Je n'étais pas cinéaste, je commençais, et j'ai appelé Guy pour que on fasse ce film. Ce film est réalisé par Guy. C'est essentiel. Maintenant, l'histoire de pourquoi Carmen Castillo, entre guillemets, l'héroïne, va à l'encontre de la flaca, bon, ça, on en parlera. Ça, c'est une longue histoire. Guy.
C'est vrai que c'était pas évident. C'est-à-dire que quand on est parti de Paris, en fait, c'est un film qui était très cadré dans le temps. Il y avait un repérage qui devait durer 3 semaines, un tournage qui devait durer 2. Et j'avais un peu reçu des consignes de pas filmer Carmen. Alors, je pense que c'était un peu des consignes de Sylvie à l'époque, qui avait peur qu'on s'égare en cours de route. Bon, en tout cas, moi, je
qui
pensais...
Sylvie
Blum, qui était la productrice du film, Alina. Bref, quand on est arrivé, j'avais le sentiment que... C'est un peu ce que j'avais dit à Carmen dès le début, c'est qu'il y avait deux destins qui se croisaient, et je ne pouvais pas imaginer filmer l'un sans l'autre. Mais en même temps, j'avais aucune idée de ce que pourrait être le filmer la flaca. C'est-à-dire, il n'y a que quand la première scène a été tournée, que je savais un peu comment elle réagissait et ce qu'on pouvait imaginer faire avec elle. Je veux dire, avant, tout ça était abstrait. Donc, je m'étais un peu accroché à l'idée de filmer Carmen parce que j'avais un biais pour raconter quand même cette histoire. Et en fait, il y a eu un moment qui a été très, très déterminant. C'est que, avant même qu'on décide qu'elle soit vraiment physiquement dans le film, on est allé, avec la caméra évidemment, à l'endroit de la maison, rue... C'est la première scène qu'on a filmée ensemble. Et il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'évidence dans cette séquence que je crois qu'après on s'est plus posé la question. Et que elle est, je veux dire, dans la séquence qu'on vient de voir, la Carmen, elle est vraiment dans l'écoute. C'est-à-dire, ça, et en même temps, la flaca s'adresse à elle. C'est-à-dire que ça change tout. Et bon, je suis pas très, partisan des interviews assis sur une chaise. C'est pas trop ma fibre, j'aime bien dans un film qui a un rapport. Voilà. Donc ça a été une façon de le construire, ce rapport. Et après, il y en a une autre, et puis une autre. Et voilà, quoi. Une autre séquence. Il y avait aussi une autre raison, c'est je savais avant de partir qu'il y aura un commentaire qui lirait les différents fragments. Et pour que ce commentaire soit complètement incarné, je pensais que c'était mieux que Carmen soit présente, en gros. Et voilà, en fait, c'est...
Mais alors, qui est à l'origine du désir du film ? C'est Carmen ou c'est toi ?
Ben, le désir, mon souvenir, et la mémoire peut être jouer des tours, mais en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est au moment où le Chili ressent, il y a eu un semblant de démocratie. Je crois que c'est ça. Et t'es retourné au Chili. T'as
je
pu.
Peux parler de ça, si tu veux.
Ben, je vais donner ma. Ouais, bon, peut-être qu'on a deux versions, j'en sais rien.
Non, oui,
mais enfin, j'ai le souvenir que Carmen revenait du Chili et qu'elle m'a parlé de la flaca qu'elle avait vue dans une émission, genre perdu de vue. Vous vous souvenez de cette émission? Ou alors, c'était un journal, mais moi, voilà, je le vois à la télé. Bref, que cette femme, parce que j'en avais déjà entendu parler de la flaca. Cette militante hantait les militants qui étaient réfugiés en France. C'est-à-dire, j'avais déjà entendu parler d'elle, de cette personne qui était vraiment une militante très costaud et qui avait trahi. C'était un espèce de mystère insondable pour beaucoup de gens. Et donc, quand Carmen m'a parlé de la flaca, je dirais pas que je la connaissais, mais en tout cas, ça a résonné avec des souvenirs. Et je lui ai dit, mais essayons de tourner un film. Je crois que ça s'est un peu goupillé comme ça. Et on
c'est
a
une
eu...
idée ensemble.
Ouais, enfin, ensemble, on était très liés, on se voyait quasiment tous les jours. Donc, c'est comme tu parles avec quelqu'un de proche et tu lui dis, écoute, ce truc-là, faut essayer de le mettre en perspective, voilà. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance quand on a fait ce film-là, c'est-à-dire... On avait une alliée qui était Sylvie Blum à l'INA. Claude Guizard était extrêmement bienveillant avec le projet. Donc c'est un projet qui a été monté facilement. Je crois qu'il y a eu 3-4 pages d'écrites qui donnaient vaguement une trame de hein.
Ça a pris du temps d'avoir une chaîne.
Ah bon, bah moi, ça s'est raccourci pour moi. Canal, la 3, peut-être. Chez Carté, on ne voulait pas, mais bon.
Nous sommes dans une quotidianité à Paris. Je reviens du Chili. Effectivement, la flaque Alejandra est le symbole de la trahison. Dans mon livre « Un jour d'octobre à Santiago » en 78, elle est centrale dans ce qui va être le temps de la survie, l'obsession du mal. Qu'est-ce que c'est la torture? Qu'est-ce que c'est la machine à tuer de la dictature? Pourquoi j'ai survécu? Et au centre de tout ça, il y a une femme, une camarade, qui a été brisée par la torture, qui a collaboré avec la DINA, la Gestapo chilienne, qui a épousé un militaire, qui n'a jamais quitté le rang des militaires, jusqu'en 92. Donc, déjà, dans la survie, les premières années, je reçois le témoignage de mes amis survivants de la maison de torture où Guy filme. Ce qu'elle me raconte, parce que j'ai été arrêtée, etc., etc., expulsée du pays, mais je n'ai pas été torturée dans une maison clandestine de torture. Déjà, les survivantes me font comprendre qu'il y a une zone grise, qu'il ne s'agit pas de la traître que la résistance devait tuer, puisqu'elle était en train de collaborer, qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut penser pour agir dans la résistance et politiquement. Penser la torture, penser la machine à tuer. Le grand reproche, donc, au moment où je suis à Santiago, c'est pas la télé, Guy, parce qu'il n'y en avait presque pas chez nous, mais il y avait les journaux. Et les journaux, il y a une photo, la femme dirigeante du MIR, qui a résisté à la torture pendant 7 mois, Gladys Diaz, tend la main à la collaboratrice, à la traître, et l'accueille. Et je suis là, paralysée, puisque la flaca m'obsédait et m'avait emmenée à lire tout pendant des années sur le mal. À ce moment-là, je ne vois pas la flaca à Santiago. Je rentre à Paris et c'est l'exil, la distance. Guy, les amis, Sylvie Blum, qui se bat pendant des mois, presque un an pour avoir l'accord d'une chaîne. Et voilà que, à ce moment-là, Guy me dit un film, parce que moi j'écrivais. Et non seulement un film, dit-il, il ne se souvient pas, mais il a travaillé, tout lu. Et il m'a dit, si tu ne veux pas que le spectateur se retrouve enfermé dans les mots de la flaca, tu dois y être. Et après, on était en prépa, mais à Paris, tu, parce que sinon, on va être dans le face à face. Et il ne faut pas. Il faut que tu puisses bifurquer, puisqu'il y a eu tous les autres militants qui n'ont pas parlé. Il y a eu ceux qui n'ont pas parlé. C'est donc ce film, nous l'avons fait pour approcher la machine à tuer. Et jusqu'à aujourd'hui, au Chili, 50 ans après, ce film n'est pas accepté par beaucoup de mes amis parce que nous avons interrogé la traître et non pas la résistante. Et c'est tout simple. Tous mes amis qui n'ont pas parlé disent « Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé. » Beaucoup sont morts, disparus, etc. La flaca, elle pouvait, filmée par Guy, pouvait nous dire ce qui se passait là-dedans. Et le film a une date. Il commence comme ça, et Guy l'a voulu. Août 1993. La parole de cette femme est à ce moment-là de sa tête. Ça fait 10 mois qu'il a quitté le rang des militaires. Dis-moi qu'elle a été accueillie par 3 femmes qui ont tout fait pour que la Flaca donne son témoignage à la justice. Ces 3 femmes l'ont protégée. L'une d'entre elles, psychiatre, l'a écoutée. Elle est en train de réfléchir quand nous, on l'a structuré ses souvenirs. Cette femme, quand nous, on la filme. Voilà.
Mais pardon, mais est-ce que vous la filmez comme une adversaire quand vous y allez? Ou est-ce que vous voulez juste comprendre pourquoi elle a fait ça?
Non, je veux comprendre la machine à tuer. Ce n'est pas une adversaire, c'est une femme qui n'est pas mon amie. Je ne l'ai jamais plus revue. Ce que nous avions accordé avec Guy, c'est nous voyons la flaque, tu la vois devant la caméra. On s'écrit avant pour nous mettre d'accord. Il y a un accord pour qu'on la filme. Quand elle dit, je ferai tout ce que tu veux, je te dois tout, la mort, etc., puisqu'elle est à l'origine de la chute du réseau qui mène à la mort de Miguel Enriquez, l'homme que j'aimais. Donc, elle dit tout ce que tu veux. Non, on lui dit avec Guy, c'est un travail, c'est un contrat. On travaille pour essayer que tu nous racontes. Donc, la posture de Carmen Castillo du film n'est pas celle de la victime de la Flaca, du tout. Il n'y a aucun sentiment. Et nous avons fait le film, nous leur avons montré le film, fini, et je ne l'ai jamais plus revu. Il ne s'agit pas de la pardonner, j'ai rien à faire avec le pardon, c'est pas un film sur le pardon, c'est pas un film peut-être même pas sur la trahison, c'est peut-être un film sur la peur, en tout cas c'est un film qui essaye d'approcher la machine à tuer et la torture. Et c'est pour cela qu'au Chili, même il y a 3 mois, je disais aux Chiliens, regardez-le. Approchez ce qui a été la torture comme efficace pour détruire la résistance, l'esprit et jusqu'à aujourd'hui, la torture, la machine à tuer, la dictature n'est pas appris, n'est pas parlé, n'est pas débattu. Il n'y a aucun lien entre le coup d'État et le présent du Chili, qui est pour la plupart des gens une société cruelle. Non pas Gaza sous les bombes, bien sûr, mais une société comme on connaît partout, non, où la vie des gens est difficile.
Guy, pour répondre, enfin, je voudrais te donner la parole après cette parole très forte de Carmen. Qu'est-ce que tu voyais? Est-ce que dans ce, effectivement, ça n'est pas un film sur le pardon, c'est un film sur la machine à tuer. Est-ce que tu le savais quand tu y allais?
J'ai eu des pistes avant d'engager ce film. J'avais lu un livre qui est un peu le chef-d'œuvre du genre, qui s'appelle Recuerdo de la Muerte, qui a été écrit par un journaliste argentin qui parlait de ce qui s'est passé dans les maisons de torture en Argentine. Et il y a énormément de similitudes, en fait. Et si c'est quelque chose qui m'avait guidé. Par exemple, la première séquence, l'extrait dans les pièces où on a l'espace où on ne sait plus où on habite, en quelque sorte, c'est directement inspiré par ce livre. Et donc, c'était la Flaca, pour moi, j'ai essayé de trouver une distance juste, c'est-à-dire, je la considérais plutôt comme une victime. Alors, effectivement, elle a trahi Et dans une société quelle qu'elle soit, je crois que quand on fait partie d'un groupe et qu'il y en a un qui traite, qui devient un traître, c'est le Judas, quoi. Hein, on lui en veut beaucoup plus qu'à l'ennemi lui-même. Uh-huh. Et je crois que dans le cas de la Flaca, il y a un peu un truc comme ça. Mais voilà, je dirais ce que j'ai essayé, c'est que elle accouche vraiment de ses souvenirs, qu'on essaye de comprendre réellement ce qui se passait à l'intérieur de ces maisons. C'était essayer de travailler aussi sur une qualité de parole. Mmh. Je peux donner un exemple parce que je pense que c'est la séquence la plus forte du film. Et à chaque fois, vous en avez mis un court extrait quand elle est dans la voiture. Si vous voulez, quand elle était dans cette boîte, cette séquence-là, c'est la séquence qu'elle n'avait pas envie de tourner. Elle n'avait pas envie de se souvenir le moment où elle trahissait ses amis. Hein. Et je lui en avais parlé tout au début, parce que au début, j'avais fait un peu une liste des séquences auxquelles je tenais, la maison de torture. Moi, bon, elle n'avait aucun problème. Pourtant, on est rentré illégalement à l'intérieur, mais tout ça lui posait aucun problème. Mais par contre, de se retrouver à essayer d'exprimer comment elle trahissait ses amis, c'est quelque chose qu'elle avait du mal à... Elle m'a dit non jusqu'au dernier moment, et j'avais réservé cette séquence pour la... avant de la quitter vraiment à la fin du film. Et on a tourné ça un matin, Carmen et la Flaca étaient à l'arrière de la voiture, donc il y avait une discussion qui était entamée, je sais pas ce dont tu te souviens, moi je sais que j'entendais une sorte de ronron, je me disais, on ne peut pas parler de ça comme ça. Et j'ai demandé à Carmen de sortir de la voiture et à la Flaca de regarder par la fenêtre et d'essayer de se souvenir exactement de ce qui se passait à l'intérieur de la voiture. Et je lui ai dit, on va rouler pendant un moment. Et quand, un peu, ce que je cherchais, c'est une forme de confession. Et je crois que on l'a obtenu. Et qu'on comprend dans ces moments-là exactement les rouages de cette machine, quoi, voilà. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais
je vais juste vous poser une dernière question. J'ai le sentiment que le film est construit dans un va-et-vient constant où on s'approche d'elle et où on la comprend et effectivement, on comprend la logique et la logique de. Ce que tu viens d'expliquer, Carmen, c'est-à-dire la logique de comment elle est brisée et comment on peut devenir traître, ce qui est quand même un grand mystère. Et puis, hop, on revient à des séquences où tu reprends la parole avec ce commentaire off particulièrement bien écrit. Et en fait, le texte, cette parole rétrospective que tu dis toi, reprend la main et nous dit à ce qu'était, non pas ce qu'elle raconte, elle, comment elle est brisée, mais ce qu'est le régime. Et il y a un aller-retour permanent où on est confronté à la puissance du fascisme, enfin à la brutalité absolue du régime, de ce régime fasciste, et puis on va dans l'intime de ce qu'il fait à quelqu'un. Et ton commentaire, il nous raconte aussi bien ce qu'il te fait à toi que comment il est historiquement. Voilà. Et ce mouvement d'aller-retour, vous l'avez construit ensemble ou il s'est imposé comment ?
Alors juste, Carmen, si tu peux répondre relativement rapidement, parce qu'après, il est 13h30.
Ben, très vite, et le processus d'un film est long, et comme dit Guy, c'était prévu que le personnage de la Carmen Castillo soit là dans cette fonction à la fois de sans sentimentalisme ni rien, très neutre, donne un contexte. Le contexte, c'est la totale immunité. On tourne la page, dit la démocratie, entre guillemets, qui s'établit après la dictature. Tout va très bien. Le Chili, c'est la Suisse de l'Amérique latine. Que voulez-vous à chercher justice et vérité? On était des ringards. Et on était tous les jours. On dormait chez mes parents. Tous les jours, il y avait des menaces contre nous. En pleine deux ans après, trois ans après le retour de la démocratie. C'est le contexte de ce film. Et l'important, pour te répondre, c'est que nous devions à chaque fois emmener le contexte politique du moment et dans quelle mesure ce film était une bombe à ce moment-là. Personne ne l'a vu. Le film a circulé jusqu'à aujourd'hui sans passer à la télévision. Le film circule, est débattu, est rejeté ou est vu, je ne sais pas, en débat, sans que toutes ces questions qui datent d'il y a 50 ans soient à l'ordre du jour de la vie des gens au Chili aujourd'hui.
Radio Libertaire 89.4, vous venez d'écouter le débat mené par Ad Hoc au Cinéma du Réel cette année. Vous pourrez le retrouver bientôt sur notre site addoc.net. Bon mois d'avril à toutes et à tous et rendez-vous en mai pour une prochaine émission. On a déjà traité le sujet.
Et il est 17h, l'heure du mélange sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Michel Polizio jusqu'à 18h30, et puis on aura de la fumée dans le poste à ce moment précis. On va commencer le programme avec un des anniversaires du jour, le trompettiste Freddie Hubbard, né le 7 avril en 1938, et ici on l'écoute dans un enregistrement en public, où il se souvient de Clifford Brown. I remember Clifford.